on a vu au moment de la conférence de Jacques Rancière comment à l'hôtel de Lassé l'exposition officielle insiste surtout sur la République qui s'installe, la République stable, la République puissante, forte, la force tranquille comme je dis, avec son lion pas assoupi mais vigilant, avec l'arc-en-ciel qui signifie le monde nouveau qui va se développer, ainsi que les rayons divergents qui symbolisent tout cet avenir républicain. Bon, mais à force de célébrer le suffrage universel avec guillemets et mimiques, comme insistent beaucoup les historiennes américaines de la gender histoire, donc à force de célébrer le suffrage universel masculin, on évacue totalement ce qui est la réalité de la révolution février et a fortiori des journées de juin, le grand massacre, lorsque la plus fraternelle des républiques se termine par l'écrasement du Paris ouvrier, du Paris Est qui commence à la Grande Chaussée Saint-Denis, comme dit Philippe Vigier, livre qui vient d'être réédité par les soins d'Alain Corbin et que certains d'entre vous connaissent, mais qui est une extraordinaire introduction à 1848. C'est très lisible, c'est remarquablement écrit. Vigier est décédé aujourd'hui, a fait ça à la fin de sa vie. Il prend, je ne sais pas combien de personnages qu'il suit, mais il montre 48, du point de vue de différents endroits. La province, Paris, c'est Vidalenc, Jean Vidalenc, le premier grand spécialiste de cette période. Le regard de la province sur 48 et la Révolution. Vigier, à la fin de sa vie, fait cette magnifique synthèse, parue, je répète, en 82 dans la collection La vie quotidienne, donc avec des contraintes de lisibilité, parce qu'on n'écrit pas dans la vie quotidienne, de la même façon que lorsqu'on fait une communication de colloque. Et c'est republié chez Hachette, sans doute parce qu'ils en avaient les droits, c'est à peine modifié. Il y a un vague sous-titre, La vie quotidienne, et il raconte les choses, en particulier pour ce qui nous intéresse, en février et en juin, du point de vue d'un Lyonnais présent à Paris. On ne sait pas pourquoi, mais enfin, il est là, il a écrit un journal, heureusement pour nous. Et deuxièmement, en racontant aussi le quotidien de ce qu'il appelle, selon l'ancien terme, la Grande Chaussée Saint-Denis, qui intervient beaucoup dans cette affaire parce que en février comme en juin, elle est à l'articulation entre le Paris bourgeois et le Paris populaire. Et donc, moi, indépendamment du côté célébration, je trouve qu'il faut voir comment notre quartier, mythe et réalité, s'est inscrit dans ces grandes journées. Et donc, ce n'est pas du tout une histoire intellectuelle que j'entends faire, mais j'aurais aimé retravailler la question beaucoup plus que je ne l'ai fait pour parler des choses, si je puis dire, au ras du pavé. Ce qui m'intéresserait à terme, c'est, si je puis dire, une histoire de proximité avec nos voisins du passé. Et donc, essayer de comprendre comment se sont déroulées concrètement ces différentes journées. Parce que, qu'est-ce qu'on en sait ? Bon, ce que les gens qui parlent en histoire laissent comme trace. D'une part, ce que le gouvernement décide, bien sûr, c'est la loi. D'autre part, ce que les gens qui parlent font des affiches, les gens des clubs, mais qui ne sont déjà pas tout le monde, sont capables de faire savoir par voie d'affiche, par la voie de l'imprimé. Bien sûr, ce que les publicistes et journalistes habituels écrivent pour 48, pendant ce printemps de toutes les libertés, liberté de réunion, liberté d'association, liberté de pétition. Il y a énormément de textes qu'on n'a pas en période plate, dirais-je, mais ça ne donne pas encore la vie au quotidien. La vie au quotidien, on arrive à la saisir, paradoxalement, que, et y compris pour les journées d'émeute, que par les archives de la répression. C'est-à-dire qu'à la suite de l'écrasement en juin 48, il y a eu 11 000 arrestations environ. Et c'est à travers la fréquentation de ces 11 000 dossiers de Vincennes qu'on arrive à reconstituer les choses. Alors bien sûr, comme toujours, il y a des critiques qui doivent être émises parce que, comme ce sont les archives de la répression, ce n'est pas exactement une parole libre. Vous savez qu'à la clé, en déclarant ceci ou cela, vous serez condamné et vous avez tout lieu de raconter que vous n'avez en rien participé aux événements. Mais en même temps, il peut y avoir, surtout chez les femmes qui savaient qu'elles étaient assez peu condamnées, puisqu'on cherchait les hommes qui avaient manié les armes, donc elles se savaient assez peu condamnées. condamnable et elle pratiquait une forme de parole, même devant les autorités, très libre, en affirmant hautement leur position. Et d'autre part, il y a le jeu croisé des témoins. De toute façon, vous pouvez raconter n'importe quoi. Il y a un minimum d'enquête qui se fait, même dans le cadre d'une justice expéditive. Donc, vous avez les témoignages du quartier. Et comme j'avais été amenée à travailler pour l'Encyclopédie politique et historique des femmes sous la direction de Christine Fauré à l'article en 48 à Paris, que nous avons fait à deux avec Christine Fauré, j'avais plus spécialement suivi les femmes dans ce contexte-là, puisqu'il n'y avait jamais eu d'études des femmes en 48 à Paris, d'études autonomes. Il y a les trois femmes militantes qu'a étudiées Michèle Rio-Sarté, avant elle Edith Thomas, mais en dehors des trois femmes dites de 48, 3-4, selon celles sur lesquelles parle encore à nouveau, non, elle n'en reprend même qu'une, Joan Scott, qui reparle de Jeanne de Rouen. Il n'y a pas eu d'essais ni de travaux sur les femmes dans cette quotidienneté. Donc voilà pour moi ce qui a été une des voies d'entrée à ce chantier. D'autre part, comme j'ai publié l'an dernier La guerre des rues et des maisons du maréchal Bugeaud, c'est-à-dire les conseils en matière de répression, un petit opuscule qu'il a voulu faire publier pendant toute l'année 48 et 49, il n'a pas réussi à le faire publier, puis il est mort et ce texte n'a été retrouvé que fortuitement au passage dans un lot de livres, le manuscrit était dans un lot de livres en salle de vente et le libraire qui l'a acheté entre guillemets involontairement et en prime. Donc le petit éditeur Jean-Paul Rocher qui voulait l'éditer est venu me voir et comme lui-même a tenu la Quincampe très longuement rue Quincampoix, librairie spécialisée en livres anciens, en livres du 19e siècle et moi-même habitant de fort longue date la rue Quincampoix, on a aussi conçu tout ce travail exhaustif et systématique dans son aspect vie de la rue, vie au quotidien. Donc, je vais un peu définir le Paris dont j'entends plus spécialement parler. C'est celui qui intervient aussi dans Victor Hugo, avec la mort de Gavroche pratiquement à l'angle Rambuteau. J'appelle ça dans mon livre le Saint-Méry, mais enfin bon, c'est le secteur barricadier qui communiquait avec Saint-Méry. En fait, il s'est fait tuer. Pas sur la barricade, mais en ramassant des cartouches devant la barricade. Ça, c'est un point sur lequel j'essaierai d'insister. On ne meurt pas sur la barricade, contrairement aux clichés, contrairement aux images, contrairement aux représentations. On meurt dans les combats, mais c'est tout à fait autre chose. Donc, une pointe extrême, chaque fois qu'il y a vers l'ouest, là, vers le nord-ouest, Montorgueil, Rambuteau, La Chanvrerie, par là, rue des Prêcheurs, une pointe nord, la grande barricade du faubourg du Temple, celle des planquistes, celle qui intervient aussi dans Les Misérables et bien entendu celle dont la description inventée, rêvée par Victor Hugo est absolument admirable, à l'entrée du faubourg Saint-Antoine. Mais là, on a le cœur du Paris barricadier, alors que la légende est que ce sont les faubourgs qui se battent, et je reviendrai là-dessus. C'est lié au plan qu'adopte la répression. Qu'est-ce qu'il faut défendre? L'hôtel de ville, parce qu'on a toujours peur d'un nouveau gouvernement provisoire, comment dire, d'une proclamation d'un nouveau gouvernement provisoire. C'est un lieu symbolique qu'il faut tenir, parce que c'est un lieu politique. Bien sûr, la Chambre des députés est nettement plus à l'ouest, les Tuileries, où il n'y avait plus, enfin si, en février, il y a Louis-Philippe, mais en juin, il n'y a plus Louis-Philippe, mais il y a beaucoup de la troupe, sont des lieux qu'il faut tenir. Bugeaud en fait toute une liste, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Ce qu'on veut tenir, c'est aussi le centre de Paris, d'où le plan Cavaignac en juin, on y reviendra. Mais pour notre périmètre émeutier et barricadier, je dirais, il y a une longue tradition. La barricade, symbole de sécession, commence en 1827. Sous la Révolution, il n'y a pas eu de barricade. Depuis la Fronde, depuis le XVIIe siècle, il n'y en a pas eu. Et on recommence ce geste comme un geste ludique en 1827, novembre 27, rue Saint-Denis, à l'annonce des succès des libéraux aux élections. Et à terme, c'est le gouvernement Villèle qui tombe. Ensuite, en 30, bien sûr, c'est un peu partout dans Paris. Ensuite, en 32, c'est lors des obsèques du général Lamarque, en juin 32, le cortège, puisque en période d'interdiction de manifestation, il n'y a que les obsèques qui servent de moment de liberté de manifester. Donc, Lamarque est décédé dans les beaux quartiers, vers le faubourg Saint-Honoré, mais son cercueil devait être embarqué à Austerlitz pour partir vers les Landes. Donc, tout Paris, tous les grands boulevards ont été un lieu de manifestation à travers son cortège funèbre. En même temps, au centre, toujours pareil, rue Saint-Denis, rue Saint-Martin, s'élèvent des barricades. Et le dernier retranchement, c'est le cloître Saint-Méry, le fameux massacre du cloître Saint-Méry. En 34, nouveau soulèvement, là, en solidarité avec Lyon, parce que le dialogue émeutier Paris-Lyon est très particulier. Tantôt les Lyonnais commencent et Paris ne suit pas, ou tantôt Paris commence et Lyon ne suit pas. Alors là, cela se termine par le fameux massacre de la rue Transnonain, au 12, quelqu'un avait tiré des fenêtres, et vous savez, c'est la fameuse bavure que Daumier a fait passer à la postérité. Toutes les personnes de cet immeuble et ou prises dans les couloirs ont été tuées, et même sauvagement. Il y a eu jusqu'à 10 coups de baïonnette par cadavre. Et la malchance de cette affaire qu'on a voulu imputer à Bugeaud, qui ne commandait pas les troupes à cet endroit-là, mais qui avait donné un ordre du jour extrêmement musclé aux troupes depuis la veille. Et c'est Garnier-Pagès qui, faisant l'enquête, Garnier-Pagès à l'époque avocat républicain et libéral, futur membre du gouvernement provisoire de 1848, Garnier-Pagès a décidé et fait passer à la postérité, mais moins efficacement que Daumier évidemment, que c'était Bugeaud qui était le responsable de cette affaire. Or la rue Transnonain, c'est une rue comme le cloître Saint-Méry. Le cloître Saint-Méry est effacé de la mémoire des murs du quartier, puisque c'est l'emplacement de la fontaine Niquide Saint-Phal, si vous voulez, un peu plus vers l'ancienne école, mais qui a été démolie pour faire l'IRCA, etc. Rue Transnonain, c'est rue Beaubourg, dans le morceau, si je puis dire, le plus vers Arts et Métiers. Et donc, la rue Beaubourg a recouvert le morceau de la rue Transnonain quand elle a été terminée vers 1910. Or, ce sont des endroits qui sont vides et qui n'articulent pas la circulation de Paris. Bien sûr, aujourd'hui, on y fait passer des voitures parce qu'il y a de la place, mais ça ne débouche sur rien. Ça débouche sur le carrefour des Arts et Métiers. C'était beaucoup plus la volonté d'effacer une mémoire. Ça débouche aussi sur la rue de Turbigot, mais enfin, bon, un peu comme un doublé au Sébastopol. Ensuite, 39 nouvelles barricades. Là, c'est la Société des Saisons. C'est Barbès, Blanqui, Martin Bernard. Et c'est encore les rues Saint-Denis et Saint-Martin qui commencent un dimanche de Pâques. Et ensuite, 48, nous avons les barricades sur tout Paris en février, puis en juin dans le Paris Est qui commence, je le répète, à la Grand Chaussée Saint-Denis. Et enfin, en 51, les rares barricades avec quelques morts, c'est à Montorgueil et au carrefour du Temple et de Rambuteau. Donc, voilà un peu la définition de cette surimposition de mémoire et de mémoire largement gommée, y compris dans la volonté urbanistique de Paris sur 150 ans, enfin 100 ans du moins. Et le dernier moment, si je puis dire, c'est Beaubourg dans cette affaire. Et voilà comment s'est constitué un peu ce Paris. Paris qui est susceptible d'émotion, comme on disait, c'est-à-dire c'est le sens ancien de l'émeute. Dans Corneille, on trouve, et ça c'est le grand Larousse du 19e siècle qui prend cette citation, « Rome a vu autrefois de ses émotions, bon, et plus tard, Voltaire emploie encore le terme, les émotions du peuple furent ensevelies dans une consternation générale. » Mais peu à peu, on passe au terme d'émeute et d'insurrection. Bon, une insurrection qui réussit, évidemment, c'est une révolution. D'autre part, ces troubles urbains, ces émotions, comportées pour les désigner ce terme fortement psychologique, parce que cela fonctionne toujours sur les ressorts de l'émotion négative les plus fortes, comme disent les psychologues, la peur et la colère. Colère qui est souvent décisive dans ces jours-là, soit parce qu'il y a eu un premier incident, une fusillade. En février 48, c'est très net, c'est la fusillade du boulevard des Capucines. Au départ, il y avait simplement une manifestation qui venait du 12e arrondissement, la Mouffetard, quand ce n'est pas le Paris de l'hôtel de ville, le Paris des Arcis ou la Révolution et des Gravilliers. C'est le 12e arrondissement de l'époque, c'est-à-dire du Panthéon à la Mouffetard, qui intervient. Et c'est là qu'avait été prévu, dans le cadre d'une demande d'élargissement du suffrage censitaire, des banquets. Bon, comme on ne pouvait pas manifester à la fin du règne de Louis-Philippe, qu'est-ce qu'on faisait? Des banquets, les cortèges funèbres et les banquets qui sont des réunions. Enfin, les cortèges funèbres, on ne les faisait pas exprès, bien entendu. Mais enfin, on en profitait. Mais lorsqu'on voulait défendre une idée, faire une campagne politique, on la faisait sous forme de banquet, parce que qui dit banquet dit lieu clos, dit espace privé. On ne peut guère empêcher les gens de banqueter, encore que le dernier, qui devait être le plus important, a été interdit et il devait avoir lieu dans le 12e arrondissement. Donc là, mécontentement des gens des sociétés et manifestation qui part vers Guizot, vers chez Guizot, si je puis dire, boulevard des Capucines. Guizot, en fait, depuis son ministère des Affaires étrangères, dirigeait la politique depuis un bon moment. Et affolement, une fusillade malencontreuse, mais un véritable affolement, sans mort à peu près, de tous les sexes, comme dit un texte magnifique ici, et on promène toute la soirée, c'est ce qu'on appelait la promenade des cadavres, dans Paris. Et pendant ce temps-là, les barricades se constituent. Et qu'est-ce qui nous intéresse plus particulièrement ici? Ce qui se passe au niveau du 5e, 6e, 7e et 8e arrondissement, en terminologie de l'époque, la garde nationale était organisée par arrondissement. Donc le 5e, c'est à peu près les halles, les anciens marchés. Le 6e, ça va de la rue Quincampoix, c'est un arrondissement tout en longueur dont le centre est à l'abbaye Saint-Martin et reprend l'ancien quartier des Gravilliers, le quartier très fortement républicain, libéral, et sous la Révolution, c'était celui de Jacques Roux. Le 7e est plus centré sur la rue du Temple et la mairie était dans l'hôtel de Saint-Aignan. Vous voyez celui qui a les Indiens avec, on leur avait dit au XVIIe siècle que les Indiens avaient des plumes. Donc l'artiste avait une tête d'Indien telle qu'il se l'imaginait, mais avec de belles plumes de pigeon latéralement à ses figures. Et puis je crois qu'elles ont été volées, elles n'y sont plus. Il y a 5 ans peut-être. Et le 8e, c'est plus vers la place des Vosges. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe? Voilà une réaction qui est intéressante parce qu'elle émane d'un homme éclairé du quartier, très enthousiaste devant la Révolution. Il fait partie visiblement de ces boutiquiers républicains qui font partie de la garde nationale, c'est-à-dire des forces armées, mais locales, une sorte de gendarmerie. Il faut seulement, pour y entrer, pouvoir se payer l'uniforme, l'équipement, comme on dit, et les armes. Il dit le 24 février, alors là c'est signé du 25, « Je croyais tout fini. Paris était tout en réjouissance nationale. Les illuminations, depuis le pavé jusqu'au 6e étage, rendaient Paris éblouissant de lumière de la chute du ministère. Quand tout à coup, le cri aux armes se fait entendre. » Ah oui, pourquoi? Parce que Guizot tombe en tant que ministre, mais il n'y a pas eu encore l'incident de la fusillade. « Quand tout à coup, le cri aux armes se fait entendre, 50 cadavres de tout sexe, il y en avait une centaine, et puis à mon avis, il n'y avait que deux sexes, mais enfin bon, venez de tomber sous une fusillade qui part du ministère des Affaires étrangères. Au même instant, le tocsin sonnait, ça c'est la façon dont on mobilise les grands jours. La fusillade ne décessait pas près des halles aux innocents. Au jour, chacun se mit à faire des barricades. En moins d'une heure, 8000 sont élevés. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on appelle une barricade si c'est un tas de cailloux, genre chevaux de frise ou... Les évaluations vont toujours de 400 à 8000. Alors bon, tout dépend à quelle hauteur on met la barricade. Est-ce qu'elle barre véritablement la rue, etc. Bon, chacun rivalise de celle. Honneur à ces braves citoyens, c'est, il écrit SES, hein, qui construire les moyens de défendre nos droits par les armes. Mais cette fois, le cri n'était plus à bas les ministres, c'était à bas Louis Philippe, à bas le traître. Les gardes nationaux sortirent en plus grand nombre, les braves ouvriers se formèrent en bataillon et en quelques heures il n'y avait plus ni roi ni ministre, les marches du trône étaient foulées aux pieds. Je vous remercie, braves ouvriers, d'être venus grossir nos bataillons. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un homme de la garde nationale qui témoigne d'une mobilisation plus large. C'est appelé braves ouvriers de Paris. Je ne connaissais absolument pas ce document, mais on a vraiment tort de ne pas l'utiliser. Votre courage ne s'est pas démenti, aujourd'hui comme hier, vous avez fait votre devoir, vous avez rivalisé de zèle et de courage, votre conduite est bien celle des enfants de la France, achevez l'œuvre comme vous l'avez commencé, et les peuples jaloux de votre gloire et de votre union prendront bientôt à votre exemple le chemin de la postérité, avec l'idée que, évidemment, le centre de Paris est le centre de la France, voire de l'Europe. Bon, alors, voilà un texte qui très concrètement vous montre les choses, voilà une trace. Et d'autre part, dès avant le 23, un petit incident que je voulais vous raconter pour vous dire que la légende de Gavroche, ça existe. Enfin, que Gavroche existe sous certaines formes. Les premiers incidents étaient dans le quartier rue Neuve-Bourlabé, ce qu'on appelle rue Bourlabé, où une certaine armurerie, le pape, était défendue par les cipots. Alors, les gardes municipaux étaient, eux, extrêmement haïs, parce que c'était une troupe payée, contrairement aux gardes nationaux, qui sont, en quelque sorte, des responsables du quartier et des médiateurs, puisque eux-mêmes sont commerçants, ils veulent minimiser, si je puis dire, les incidents. Mais les cipots sont la police de l'époque. Or, les cipots défendent l'armurerie. Dès que Paris s'agite, évidemment, on défend les armureries. Et comment ça se termine? Évidemment, la garde nationale vient, il y a négociation, on laisse partir les cipots à condition qu'ils abandonnent leurs armes. L'un ne veut pas obtempérer et un sergent se fait tuer, semble-t-il, par un gamin qui était armé. Un gamin de 12-13 ans. Mais les jours d'émeute, les enfants, ils travaillaient aussi à partir de l'âge de 11 ans, enfin les tout jeunes, étaient aussi largement armés que les adultes. C'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. Quant à juin 48, alors là c'est l'écrasement du peuple, mais qu'est-ce que c'est? C'est aussi quelques incidents, toujours dans ce périmètre. Les premiers, que j'utilise beaucoup, avec ce récit toujours repris, qui est dans Engels pour la Rheinische Zeitung, qui est dans tous les journaux français, ou à peu près, qui est dans Daniel Stern, Marie Dagout, dans son Histoire de la Révolution de 1848, paru en 50, assez à chaud, et qui figure aussi dans Victor Hugo. Évidemment, Engels en fait des grisettes. Cela montre le rôle des femmes porte-drapeau, une des représentations des femmes bien signalé par Maurice Agulon depuis qu'il a étudié ces Mariannes. Je voudrais bien voir ça parce que cette représentation est assez courante. Vous voyez une femme à la barricade, mais là c'est une cantinière. Or, j'en veux beaucoup à la grande exposition, surtout que ça c'est le volume qui correspond à ce qui va partir internationalement. Or, on montre une femme à la barricade qui a été héroïsée, qui est une cantinière, qui est une demoiselle Charlemagne et qui est du côté des forces de l'ordre. Or, les femmes à la barricade était toujours du côté des insurgés. C'est la seule qui était de ce côté-là. Et au nom du politiquement correct, puisqu'il faut parler des femmes de nos jours, n'est-ce pas, bien entendu, on a pris la seule qui était, entre guillemets, dans le mauvais camp. Je trouve que c'est parfaitement infamant pour les femmes. C'est d'une maladresse insigne. On m'a expliqué qu'il fallait que ça soit une femme et qu'il fallait que ça soit plastique. D'accord. Mais je trouve que c'est quand même une balourdise sans nom. On m'a dit que la plupart des gens ne s'en rendront pas compte. Les femmes du quartier venant soutenir leur mari insurgé n'avaient pas un bel uniforme tout de même. Alors celle-là a agi, rive gauche, à l'angle de la rue des Noyers et de la rue Saint-Jacques. Mais elle a été largement décorée, etc. Alors, les premiers incidents et les premières tueries, alors en juin, C'est évidemment au contact de la 6e Légion, donc du 6e arrondissement, à la porte Saint-Denis. Entrée royale, entrée monumentale, entrée importante, parce que, évidemment, le trafic se fait beaucoup avec le nord. Le sud, c'est encore quelque chose de lointain et de mal relié à Paris. On met 5 jours pour aller, je ne sais pas où, à Perpignan. Alors, premier incident grave, donc choc entre les gardes nationaux restés du côté gouvernemental, si je puis dire, et l'insurrection. Avec des gardes nationaux aussi, bien sûr, mais ayant choisi l'autre camp. Sur les 5e, 6e et 7e arrondissements, on calcule que sur 80 000 gardes nationaux qui auraient dû venir lorsqu'on bat le rappel, on en a difficilement eu 5 000. Ça veut dire que 75 000 n'ont pas voulu obtempérer, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, chacun d'expliquer qu'ils n'étaient pas trop avec les insurgés, ou de dire qu'ils étaient sur la barricade simplement à titre de médiateur, simplement pour qu'il n'y ait pas de violence, simplement pour que tout se passe bien, ce qui est aussi leur fonction habituelle. Mais bon, alors voilà un récit par Marie Dagout. Là, c'est pour montrer le rôle des femmes porte-drapeau, qui est un rôle spécifique et qu'a analysé Agulon dans ses Mariannes. Les gardes nationaux revinrent à la charge avec vigueur. Le chef des insurgés, qui, debout sur une voiture renversée, son chapeau à la main, commande le feu, est atteint mortellement. On croit le combat terminé. Mais au moment où le drapeau échappe au chef, une jeune fille, qu'on n'avait pas aperçue jusque-là, le saisit. Elle l'élève au-dessus de sa tête, elle l'agite d'un air inspiré. Les cheveux épais, les bras nus, vêtus d'une robe de couleur éclatante, elle semble défier la mort. À cette vue, les gardes nationaux hésitent à faire feu. Ils crient à la jeune fille de se retirer, elle reste intrépide, elle provoque les assaillants du geste et de la voix. Un coup de feu part, on la voit chanceler et s'affaisser sur elle-même. Mais une autre femme s'élance soudain à ses côtés. D'une main, elle soutient le corps sanglant de sa compagne, de l'autre, elle lance des pierres aux assaillants. Une nouvelle décharge retentit, la voilà qui tombe à son tour sur le cadavre qu'elle tenait embrassé. À ce moment terrible, au plus fort de la fusillade, un chirurgien de la garde nationale quitte les rangs pour venir porter secours à ses femmes. Les voyant sans vie, il retourne toujours au milieu du feu croisé des balles vers les blessés de la garde nationale. La barricade est prise d'assaut, les insurgés fuient vers le faubourg Saint-Denis, le feu n'a pas duré moins d'une demi-heure. Et c'est le vendredi à midi, en plein soleil. Bon, mais c'est pas tout à fait ça, l'histoire. La femme n'est pas morte. Elle s'appelle Adèle Guerre, je l'ai retrouvée par chance, parce que je n'ai pas lu les 11 000 dossiers, mais je suis tombée sur cette histoire, alors ça m'a évoqué quelque chose. Elle est allée après soigner chaque fois qu'il y a combat. On transforme les salles publiques et les églises en ambulance, comme on dit, c'est-à-dire en hôpital de campagne, enfin très sommaire, surtout vu les moyens de l'époque. Elle est allée soigner des gens à la salle des concerts-spectacles, où se réunissaient les femmes, d'ailleurs des femmes de 48, rue Sainte-Apolline, juste à côté. Elle avait déposé son drapeau quand même, elle avait cru comprendre que c'était dangereux, chez le boulanger du coin, un boulevard Bonne Nouvelle. Le lendemain, elle reprend son drapeau, la boulangère la menace, ou menace de la dénoncer. Elle lui dit, ça m'est égal, j'ai le Dru Rollin avec moi. Le Dru Rollin, c'est un des membres du gouvernement provisoire, celui qui représentait la tendance des Mopsoc. Et puis finalement, elle est dénoncée par sans doute une rivale dans son quartier. Elle est entendue après. Elle était surtout entretenue par son ami ébéniste rue de Ménilmontant, mais elle est d'une famille très engagée du côté de l'insurrection. Son frère aîné, à prêteur sur dorure, rattrape 5 ans de détention dans cette affaire. Donc voilà comment commencent les incidents. Et ce premier combat, avec en plus la chute de ces deux femmes, alors jeune et belle grisette, vêtue avec goût les bras nus, Engels, une grande et jeune personne tête nue, dit un autre texte. Alors certains la voient même avec une robe de barège rayée et une fanchon sur la tête. Bon, bref, tout cela est le début des récits et Victor Hugo en fait une prostituée avec une gestualité extrêmement agressive à l'endroit des troupes qui tire. Et d'autre part, c'est bien sûr la fameuse barricade de la rue Saint-Antoine qui donne l'entrée du faubourg Saint-Antoine. Et je vais beaucoup plus lentement que prévu parce que j'explique des tas de choses, mais je vous dirai après fort sommairement mes thèses. Mais nous vous écoutons.
Très bien. La barricade Saint-Antoine était monstrueuse. Elle était haute de 3 étages et large de 700 pieds. Elle barrait d'un angle à l'autre la vaste embouchure du faubourg, c'est-à-dire trois rues, ravinées, déchiquetées, dentelées, hachées, crénelées d'une immense déchirure, contrebrutées de monceaux qui étaient eux-mêmes des bastions, poussant des caps ça et là, puissamment adossées aux deux grands promontoires de maisons du faubourg, elles surgissaient comme une levée cyclopéenne au fond de la redoutable place qui a vu le 14 juillet. 19 barricades s'étageaient dans la profondeur des rues, derrière cette barricade mère. Rien qu'à la voir, on sentait dans le faubourg l'immense souffrance agonisante arrivée à cette minute extrême où une détresse veut devenir une catastrophe. De quoi était faite cette barricade ? De l'écroulement de trois maisons à 6 étages, démolies exprès, disaient les uns. Du prodige de toutes les colères, disaient les autres. Elle avait l'aspect lamentable de toutes les constructions de la haine, la ruine. On pouvait dire, qui a bâti cela ? On pouvait dire aussi, qui a détruit cela ? C'était l'improvisation du bouillonnement. Tiens, cette porte, cette grille, cet auvent, ce chambranle, ce réchaud brisé, cette marmite fêlée, donnez tout, jetez tout, poussez, roulez, piochez, démantelez, bouleversez, écroulez tout. C'était la collaboration du pavé, du moellon, de la poutre, de la barre de fer, du chiffon, du carreau défoncé, de la chaise dépaillée, du trognon de chou, de la loque, de la guenille et de la malédiction. C'était grand et c'était petit. C'était l'abîme parodié sur place par le tohu-bohu. La masse après l'atome, le pan de mur arraché et l'écuelle cassée. Une fraternisation menaçante de tous les débris. Sisyphe avait jeté là son rocher et Job son tesson, en somme terrible. C'était l'acropole des va-nu-pieds. Des charrettes renversées accidentaient le talus. Un immense baquet y était étalé en travers, l'essieu vers le ciel, et semblait une balave sur cette façade tumultueuse. Un omnibus hissait gaiement à force de bras tout au sommet de l'entassement, comme si les architectes de cette sauvagerie eussent voulu ajouter la gaminerie à l'épouvante, offrait son timon dételé à on ne sait quel chevaux de l'air. Cet amas gigantesque, alluvion de l'émeute, figurait à l'esprit un ossa sur pélion de toutes les révolutions. 93 sur 89, le nerf thermidor sur le 10 août, le 18 brumaire sur le 21 janvier, Vendémiaire sur Prairial, 1848 sur 1830. La place en valait la peine, et cette barricade était digne d'apparaître à l'endroit même où la Bastille avait disparu. Si l'océan faisait des digues, c'est ainsi qu'il les bâtirait. La furie du flot était empreinte sur cet encombrement difforme. Quel flot ? La foule. On croyait voir du vacarme pétrifié. On croyait entendre bourdonner au-dessus de cette barricade, comme si elles eussent été sur leur ruche, les énormes abeilles ténébreuses du progrès violent. Était-ce une broussaille ? Était-ce une bacchanale ? Était-ce une forteresse ? Le vertige semblait avoir construit cela à coups d'aile. Il y avait du cloaque dans cette redoute et quelque chose d'olympien dans ce fouillis. On y voyait, dans un pêle-mêle plein de désespoir, des chevrons de toit, des monceaux de mansardes avec leur papier peint, des châssis de fenêtres avec toutes leurs vitres plantées dans les décombres, attendant le canon, des cheminées descellées, des armoires, des tables, des bancs, un sens dessus-dessous hurlant, et ces mille choses indigentes, rebuts même du mendiant, qui contiennent à la fois de la fureur et du néant. On eût dit que c'était le bâillon d'un peuple, haillon de bois, de fer, de bronze, de pierre, et que le faubourg Saint-Antoine l'avait poussé là à sa porte d'un colossal coup de balai, faisant de la misère sa barricade. Alors là, on saute un petit passage. C'était un tas d'ordures et c'était le Sinaï. Comme nous l'avons dit plus tôt, elle attaquait au nom de la Révolution. Quoi ? La Révolution. Elle, cette barricade, le hasard, le désordre, l'effarement, le malentendu, l'inconnu. Elle avait en face d'elle l'Assemblée constituante, la souveraineté du peuple, le suffrage universel, la nation, la République. Et c'était la Carmagnole défiant la Marseillaise. Défi insensé, mais héroïque, car ce vieux faubourg est un héros.
Alors, dans ce texte, très connu évidemment, mais qu'on a quand même plaisir à relire chaque fois, il y a tout ce qui caractérise Hugo à ce moment-là. Pourtant, on est après 51. Donc là, il est devenu résolument républicain, ce qui n'était pas en 48. Il est du côté du peuple depuis que le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, du 2 décembre 51, a modifié la carte politique. Mais le paradoxe, c'est que il montre la force subversive, au double sens du terme. Il se laisse lui-même emporter par son lyrisme et finit par adhérer en quelque sorte à l'image de cette force subversive, en même temps qu'il dit que cette barricade, ou le peuple, c'était la Carmagnole défiant la Marseillaise, et donc quelque chose qui est assez contestable. Et ça se sent très bien dans le témoignage de Hugo pour toute cette période, dans Choses vues, et texte beaucoup moins remanié que ça. Évidemment, Les Misérables, ça avait été écrit en partie avant, mais il y a tout ce morceau, et l'action se situe officiellement en 32, mais quand il attaque le livre premier de Jean Valjean, et que dans le morceau La guerre entre quatre murs, où il y a la fameuse mort de Gavroche, il y a retour aux deux grandes barricades de 48, celle-là et celle tout à fait différente du Faubourg du Temple, qui est celle des blanquistes en gros, avec le sinistre Barthélemy à la tête, tandis que là c'est un certain Frédéric Cournet, officier de marine, qui a dirigé au Faubourg Saint-Antoine. Et ensuite les deux se retrouvent en exil à Londres après 51 et Barthélemy tue Fournet en duel. C'est vrai, enfin je veux dire, ce n'est pas une invention de Hugo. Et Hugo faisait des femmes de tout à l'heure, de Marie Dagout, des prostituées. Parce que quel est le problème chez Hugo comme chez Marx, c'est qu'il faut créer de la différence. Créer de la différence, expliquer que les gens qui sont d'un côté de la barricade ne sont pas les mêmes que l'autre. Or, ce sont les mêmes. Bon, la garde mobile était le lumpenprolétariat, d'après Marx. Et là, il y a une page dans Les luttes de classe en France, il dit, il explique la création par le gouvernement provisoire des gardes mobiles, composés de jeunes gens de 15 à 20 ans, qui eux, alors, sont payés 1,50 francs par jour, et se feront tuer pour 1,50 francs par jour, mais on est en pleine crise économique, et ils sont bien souvent les enfants ou les jeunes frères des gardes nationaux, donc il n'y a pas de rupture sociale, mais ça, comme la doxa marxiste fonctionnait, ça n'a été étudié d'abord par les anglo-saxons, évidemment, eux ne pouvaient pas supporter qu'il y ait quoi que ce soit de marxiste dans l'historiographie, deux, fortement au lendemain de mai 68, puisque là, le combat idéologique était nette, il fallait expliquer que les luttes, où que ce soit sur Terre, n'avaient rien à voir avec des questions de classe, mais que c'était des questions de génération. Mais Marx avait expliqué que les gardes mobiles, ce sont des jeunes gens de 15 à 20 ans. Ils appartenaient pour la plupart au lumpenprolétariat qui, dans toutes les grandes villes, constitue une masse nettement distincte du prolétariat industriel, pépinière de voleurs et de criminels de toute espèce, vivant des déchets de la société, individus sans métier avoué, gens sans aveu et sans feu, ça c'est en français dans le texte, gens sans aveu et sans feu, différents selon le degré de culture de la nation à laquelle ils appartiennent, etc., etc. Mais pourtant, plus loin, il dit, c'est ainsi qu'il y avait, face au prolétariat de Paris, une armée tirée de son propre milieu, forte de 24 000 hommes, jeunes, robustes, pleins de témérité. Le prolétariat salua de ses vivas la garde mobile au cours de ses marches à travers Paris. Il reconnaissait en elle ses combattants d'avant-garde sur les barricades. Il la considérait comme la garde prétorienne en opposition avec la garde nationale bourgeoise. Son erreur était pardonnable. C'est vrai que les gardes mobiles ont été à l'assaut très nettement. morts. C'est vrai que ce sont eux qui sont morts sur la barricade Saint-Méry en particulier, j'y reviendrai, la vraie de juin 48. Donc le texte de Marx, d'une part, est plus nuancé, puisqu'il dit qu'ils sortent des mêmes milieux, hein, à quelques lignes d'intervalle. Hein. J'ai sauté à peine 15 lignes. Néanmoins, les marxistes ont voulu durcir la question lumpenprolétariat contre prolétariat, jusqu'à ce que les anglo-saxons se fassent éclater ça. Dans la mobile, on a vu que les gardes mobiles non rebelles, c'est-à-dire ceux qui avaient obéi, avaient 22,1 ans en moyenne d'âge. Les gardes mobiles rebelles passaient du côté de l'insurrection 22 ans 8, donc à peine plus vieux, mais sur de grosses quantités, l'écart de la demi-année compte, parce que de toute façon ce sont des hommes jeunes, et avec sous-entendu cette idée que plus on est âgé, plus on se politise en gros, et que c'est les plus jeunes qui obéissent le plus à leur chef. Les insurgés, 33 ans 4. Là, quand même, il y a une grosse différence, c'est-à-dire qu'on arrête facilement des hommes de 50 ans dans les quartiers, sur les barricades. Bon, à part la question de l'âge, il y a visiblement parenté entre les combattants des deux côtés. Ce qu'on peut voir, c'est que entre la population des ateliers nationaux, la garde mobile et les gens arrêtés en juin, on voit que dans les ateliers nationaux, il y a plus de gens de la construction. Bon, mais parmi les arrêtés, il y en a pas mal, il y en a moins dans la garde mobile. Parce qu'évidemment, si vous êtes dans un métier de construction, vous pouvez vivre dans les ateliers nationaux et vous n'avez peut-être pas obligatoirement besoin d'être garde mobile. Les cuirs et peaux, en revanche, sont très nettement du côté de l'insurrection. Vieux métier parisien, vous voyez, et les anglo-saxons mettent les cordonniers là, alors que nous, on aurait fait une rubrique cordonnier, ébénisterie, etc. C'est très vieux métier du quartier, généralement très engagé et organisé. Alors donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que Marx ou Victor Hugo veulent-ils, parce que c'est le même processus, créer de la différence? Bien, c'est en gros pour expliquer. Alors, Marx n'est pas encore tout à fait marxiste, de toute façon, il a toujours dit qu'il n'était pas vraiment marxiste. Ils veulent tenter de comprendre cet écrasement d'une partie de la ville par l'autre. Or, on ne peut pas accepter que le même écrase le même. La seule réflexion de Marx, la seule chose qu'il dit du gouvernement provisoire, il dit « L'Assemblée constituante eut le tact d'avouer que dans les insurgés de juin, ce n'étaient pas des criminels qu'elle jugeait, mais des ennemis qu'elle écrasait. » Bon. Alors, et c'est le sens du plan Cavaignac aussi. On coupe la ville en deux, on laisse les barricades se développer sur un côté et pas sur l'autre. Et après, on organise l'attaque, mais comme en race campagne. Et Cavaignac a eu des phrases extrêmement dures. Bon, ben là, je l'explique parce que j'explique les petites différences entre Bugeaud et Cavaignac. J'ai fait une introduction de plus de 100 pages pour essayer de comprendre le côté absolument insupportable du texte de Bugeaud, alors que lui voulait gentiment, si je puis dire, comme un homme de la droite dure de son temps, le publier en disant voilà, l'insurrection c'est ça, la troupe doit faire ça, et puis quand on est dans l'insurrection, on ne peut pas toujours expliquer au moindre soldat comment il faut se conduire, donc autant qu'ils aient tous par avance les bonnes instructions. Et il dit comment on fait régulièrement la guerre civile, et puis il serait interdit d'en parler, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Or évidemment, ce sont les responsables du parti de l'ordre, les tiers, les mollets, qui lui barbotent son manuscrit, alors que lui est responsable des troupes à Lyon à ce moment-là. Enfin, lui, c'est lui qui a perdu la bataille en février, hein, quand le peuple est venu. Louis-Philippe a abdiqué et c'est Bugeaud qui a été démissionné. Ça s'est passé en même temps pour éviter le bain de sang. Mais après, dès novembre, comme Bugeaud, qui était bien placé du côté du parti de l'ordre, pouvait être un éventuel candidat, une alternative possible, peut-être à la limite, à Louis-Napoléon Bonaparte, il s'est gentiment effacé. Il a eu le remerciement aussitôt, 10 jours après, l'armée des Alpes. C'est-à-dire tout le contrôle de la frontière des Alpes jusqu'à Bourges, ce qui permettait aussi de surveiller le procès de Blanqui à Bourges et de plein d'autres. Je disais donc que Cavaignac s'est clairement expliqué et a eu des formules décisives. Cette fois-ci, ils ne nous échapperont pas. S'il les faut, je les poursuivrai jusqu'en race campagne, etc. C'est-à-dire qu'ils considèrent vraiment les insurgés comme des ennemis, il dit, et il veut les attaquer au canon, alors que pendant que l'insurrection s'est développée en juin, on a constaté son absence de directive. Il a fait un plan d'état-major, mais c'était un officier, un polytechnicien, officier d'artillerie et d'état-major. À la limite, on peut supposer que Bugeaud, avec ses techniques plus traditionnelles, entrer dans l'insurrection et dans l'émeute, à condition évidemment que la troupe suive, prévient davantage. Ça se discute, c'est deux façons de faire régner la terreur. Mais en tout cas, une fois que l'action a été opérée par Cavaignac, républicain authentique, son frère était la diva du parti républicain et son frère était mort de la tuberculose 5 ans plus tôt. Et il y avait tout le gouvernement provisoire qui tenait les cordons du poil à ce moment-là. Il y a une très belle tombe de Cavaignac, alors le frère, le grand républicain, pas le général de juin 48, au cimetière Montmartre. Je ne sais plus, c'est Etex, je crois qu'il a fait, enfin c'est un grand sculpteur du 19e. Donc, il faut comprendre que l'Assemblée, au cri de « il faut en finir », a fait massacrer une partie de Paris. Donc, que ça soit Marx, pour des raisons d'analyse de classe, mais comme tous les passeurs France-Allemagne, il met du modèle allemand à Paris et du modèle parisien en Allemagne. Enfin, c'est le propre des gens de double culture qui naviguent entre deux pays. Victor Hugo met de la distinction sociale et de l'écart encore, exactement pour les mêmes raisons, parce que lui, bon républicain, ne peut pas se voir non plus dans le rôle de quelqu'un qui doit nécessairement défendre les gardes nationaux, donc assassiner ces jeunes et belles femmes. Donc il faut nécessairement en faire des prostituées. Or, qu'est-ce que nous montrent les archives ? Eh bien, qu'il n'y avait pas de prostituées. Il y a eu, juste à la cité, une maison close qui a été inquiétée, mais parce que les filles n'ont pas ouvert assez vite aux gardes mobiles qui, je ne sais pas quoi, voulaient inspecter, visiter. Et là-dessus, il y en a deux qui ont été condamnées, mais pas du tout parce qu'elles avaient participé à l'émeute ou quoi que ce soit, un peu automatiquement. Enfin, c'était deux qui avaient des casiers judiciaires anciens, et pour le principe, une ancienne marchande des quatre saisons, une ancienne couturières, elles ont écopé de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit ? Mais plutôt des femmes qui sont servisseuses en chambre, enfin les petits métiers du quartier bronzier d'art, etc. Marie Cisler, femme brunisseuse, enfin c'est tout à fait classique. L'homme est sur la barricade, j'en ai rencontré une comme ça, rue du Grenier Saint-Lazare, elle envoie par le commis la soupe à son mari qui est à la barricade de la rue Michel-Lecomte. Ce sont des choses comme ça, je pense, dont il faudrait faire une histoire un peu précise. La figure de l'émotion au quotidien. Et donc, je voulais insister sur le fait qu'il n'y a aucune différence de population entre ceux qui participent et ceux qui ne participent pas à l'émeute, et côté combattant, entre ceux qui sont d'un côté et ceux qui sont de l'autre de la barricade. D'autre part, la barricade, et ça a été le grand apport du colloque barricade il y a peu, rue Malherbe, c'était Paris 1, tout le monde a participé, une quarantaine d'intervenants, et ça renouvelle très profondément un certain nombre de visions. Pour vous dire à quel point les jours de barricade, le quartier était bourré de barricades, ça c'est l'église Saint-Méry. C'est le quartier Saint-Méry, c'est fait par Traugott, qui était invité évidemment à ce colloque. Là, c'est l'église Saint-Méry. Là, c'est donc la rue Saint-Martin, et là, la rue Saint-Denis. Et vous voyez qu'il y a des barricades absolument tous les quelques mètres. Donc c'est une population qui se barricade, qui se replie sur son espace de quotidien. Et on ne meurt a priori pas sur la barricade, sauf au moment évidemment de la prendre, mais dans l'ensemble, on ne la défend pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Et par exemple, quand la grande barricade de Saint-Antoine est prise, toutes les autres sont prises dans la foulée. Parce que c'est un acte politique, un geste symbolique, une sorte de logique de la différence et du vide qui est inscrit dans la ville. On n'est pas là à se truander à la baïonnette à chaque instant. Bon, c'est un peu là-dessus que je voulais insister, puis je répondrai à vos questions. Aussi, je voulais conclure en disant que c'est une figure d'attente, la barricade, et que c'est une forme rituelle qui est devenue rituelle pendant le 19e siècle, et que c'est finalement une figure de l'émotion. Cela dit, cette figure d'attente est aussi celle du temps suspendu. Parce que c'est vrai qu'il y a négociation politique pendant tout le moment où tout cela s'élabore. Il y a un geste qui a été très fréquent en 1830 et que Walter Benjamin a souligné dans le chapitre Haussmannisation du livre des passages, c'est que souvent les horloges publiques ont été détruites. Personne n'a expliqué ce geste, on y revient très peu, moi j'en ai parlé un peu dans mon bugeot. Parce que c'est véritablement le temps suspendu. On a pensé à des formes d'interprétation du type ben, « ça rompt l'ordinaire, la discipline de l'usine ». Mais c'est idiot. En 1830, les gens ne sont pas en usine. C'est l'atelier, c'est la fabrique. Le temps pour soi est mélangé au temps de travail. C'est la pause, c'est l'explication à un apprenti, c'est la causette avec les gens de l'atelier d'à côté. Donc c'est vraiment à cette forme de suspension du temps qu'il faut penser. Néanmoins, on a besoin de la figure de la barricade parce que c'est un symbole. Et lorsque Mgr Braff est venu négocier entre les deux camps, si je puis dire, juste avant de prendre la fameuse barricade, celle-là du faubourg Saint-Antoine, est tué. Il est tué en fait par des gens du parti de du côté de l'ordre, une histoire de tir croisé qui a mal fini, mais de même que le général Négrier. Parce qu'évidemment, quand on attaque de deux côtés, pour peu qu'il y ait un morceau qui ne sache pas que l'un est un ambassadeur, un négociateur, Mgr Aff est mort comme ça, entre deux barricades, et il a constamment été représenté comme mort sur la barricade. Alors quand il y a des petites statuettes, la barricade, il faut le savoir, est très symboliquement représentée par à peine un petit piédestal, mais ça signifie la barricade. Donc c'est une figure imposée des luttes, alors que pendant toutes ces luttes, au fond, c'est un pari quotidien que l'on voit avec une grande solidarité entre les gens. Et je pense qu'il faudrait profiter davantage des archives de la répression pour comprendre la vie quotidienne de Paris, la vie quotidienne pas seulement par temps d'émeute, mais aussi la vie quotidienne tout simplement avec ses rituels, ses habitudes.
Je vous remercie.
Il a été question de trois maisons démolies à l'entrée de la rue du Faubourg Saint-Antoine.
Mais c'est dans Victor Hugo, alors tout le monde fait semblant d'y croire.
Oui, c'est ça.
Ce que préconise Bugeaud, alors lui, système, dictature, genre 20e siècle, pays latin, c'est transformer en fortin toutes les maisons qui commandent plusieurs rues ou une rue. C'est-à-dire les réquisitionner, les louer et installer un certain nombre, enfin les pièces d'artillerie voulues, les rations ripincelles, l'alcool, etc. Et ne pas laisser des petits postes avec trop peu d'hommes, mais avoir un système de verrouillage et de quadrillage de la ville. Et vous savez que ce n'est pas ça qui a été choisi comme modèle, ça a été les casernes en périphérie, mais avec accès par de grands axes vers les centres. Et Bugeaud calculait que son système était économe d'hommes et donc permettait de contrôler la ville à meilleur marché, avec moins de troupes en permanence sur place. Dès qu'une barricade commencerait, vous auriez immédiatement 80 personnes. Il voulait publier ça en janvier 49 et évidemment se préparer les législatives de 49. Et le parti de l'ordre ne voulait pas entendre parler de ce petit texte.
Les chefs ont été arrêtés après la manifestation du 15 mai 48. Or, la marche part de spontanéité. Il y a un certain chef, un certain Pujol, qui paraît-il, enfin, mène l'insurrection. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a une marche part d'improvisation.
Ah, absolument, on n'a jamais pu déterminer qu'il y ait chef. C'est vraiment la spontanéité des masses, avec renforcée par les leaders habituels, les leaders de rue, de maison. Dans chaque rue, il y a bien une personne qui fait la loi, vous le savez très bien, vous obéissez à certaines concierges et pas à d'autres. Quand on lit toute cette sociabilité de quartier, de rue, etc. Quand vous voyez que sur une rue comme la rue de Turenne, il y aurait peut-être 50 barricade, vous voyez bien qu'il n'y a aucun plan d'ensemble. C'est fait dans le cadre d'un repli sur soi. La barricade, c'est faire sécession. C'est décider que, entre soi, les 40 familles de tel immeuble et les 8 familles de l'immeuble d'à côté qui est beaucoup plus petit, on va marquer sa différence.
Mais le symbole du Faubourg Saint-Antoine, car En 1851, c'est pratiquement uniquement le faubourg Saint-Antoine. En juin 48, c'est peut-être moins vrai. Mais 1831, 1834, c'est une grande part du faubourg Saint-Antoine. Est-ce que c'est un faubourg symbole près de la Bastille?
Absolument. Alors, en 31-34, il y a quand même autre chose. Là, ce sont les sociétés républicaines qui organisent et ce n'est pas suivi largement. Tandis que, en 48, le faubourg fait des barricades comme tout Paris. Il est pris le dernier, mais ça, c'est l'effet du plan Cavaignac. On attaque d'ouest en est. Ça me rappelle ce qu'on raconte dans mon amour. Enfin, les Français nous ont conquis, puisqu'on était anglais en Aquitaine. Le canton a été pris. Et puis mon hameau n'a pas été pris, parce qu'évidemment on a pris le gros et on a oublié le petit détail. Et je veux dire, c'est un peu ça, Cavaignac prend le centre de Paris, c'est là qu'on meurt, et c'est là que j'ai retrouvé, ce sont des archives assez intéressantes, un certain nombre de morts à la barricade Saint-Méry, donc devant Saint-Méry, alors que le faubourg Saint-Antoine n'a pas résisté. Si vous voulez. Il a fait ses barricades, mais après, ça a été pris sur la lancée en juin 48. Donc, c'est complètement un effet de légende. En revanche, en 51, Baudin est allé se faire tuer là-bas exprès, parce que le but était qu'il y ait un mort pour que le peuple suive. Donc, c'était la chronique d'un assassinat annoncé. Tout ce qui s'est passé depuis la veille, Baudin avait décidé que puisque le peuple ne suivait pas, il fallait des actes exemplaires. Et Baudin est allé se faire tuer au faubourg Saint-Antoine parce que là, le code était établi, indispensable. Si on voulait que quelque chose se produise, il fallait un mort. Une mort un peu spectaculaire. Donc une mort sur la barricade. Et en plus, on lui donne 33 ans. Victor Hugo le raconte dans Chose Vue. Il m'a dit la veille qu'il avait 33 ans. Vraiment, on fait de Baudin une figure christique, mais lui-même l'a voulu comme tel.
Les classes sociales qui ont participé à l'insurrection, elles sont frappées d'abord par le nombre des imprimeurs, des correcteurs, alors qu'ils avaient les salaires les plus élevés. Et je crois que ça se retrouve également sous la commune de Paris. On peut faire peut-être un parallèle. Certaines classes sociales servent beaucoup plus que d'autres.
En certains groupes, oui, vous avez les cordonniers aussi, beaucoup. Or, ce sont les très gros salaires, parce que le cordonnier, c'est 12 ans d'apprentissage. C'est quelqu'un qui gagne la thune, 5 francs par jour. Et c'est une des rares... avoir de la thune, ça vient de là. Il n'y avait que les sertisseurs, les cordonniers et les terrassiers. On n'avait pas de pelle bétonneuse et autres. Terrassier était un métier de haute compétence. C'était vraiment une compétence de chef de chantier. Hein. Pas seulement les gros bras, les deux. Et à l'époque, la force physique intervenait, évidemment, puisque pas de force électrique. Donc, ça, c'était les trois métiers qui gagnaient. Les typographes, vous savez, pendant ces périodes, ils sont dans leurs imprimeries, c'est comme les ouvriers en 14-18, ils sont en train de faire des munitions de guerre, et les typographes, ils sont en train d'imprimer les affiches et les journaux. Ils sont assez peu sur les barricades de fête. Attention, moi je parle des jours d'émeute, je n'ai jamais parlé des gens des clubs. Les héros de l'écritoire, ce n'est pas mon sujet. Bugeaud, comme Blanqui, vomissait sur les héros de l'écritoire.
Mais simplement à propos du maréchal Bugeaud, sans aller jusqu'à le défendre, son opuscule, en fait, il s'inscrit dans un débat qui ne finira qu'après la Première Guerre mondiale sur le maintien de l'ordre et l'emploi de l'armée. Tant qu'on n'aura pas créé de corps spécialisés pour le maintien de l'ordre, on aura ces problèmes. Il n'y a pas de doctrine en matière de maintien de l'ordre pendant tout le XIXe siècle. Et lorsque vous avez, à propos de la garde nationale, dit que c'était une sorte de gendarmerie, là, je serais beaucoup plus nuancé. La garde nationale est en fait une milice civile. Elle n'est pas militarisée, malgré son uniforme, ses armes. Et la garde nationale de février 48, c'est pas la même que celle de juin 48. Après les journées de février, la garde nationale s'ouvre sous la monarchie de Juillet. Pour être garde nationale à Paris, il faut payer le sens. Alors que dès que la monarchie est abolie, la République proclamée, la garde nationale est ouverte à tous les citoyens.
Oui, mais la mesure n'a pas été appliquée. Elle était théoriquement applicable. Seulement, en période de crise, les gens qui auraient peut-être aimé en faire partie n'étaient pas capables de se payer quand même le minimum de l'équipement. Dans la mesure où il n'y a pas eu de subvention payée pour donner de l'équipement à ces éventuels candidats, ils sont tous partis, et c'était les plus jeunes, vers les mobiles. Donc, on ne peut pas vraiment dire, malgré la loi, hein, qu'entre février et juin, les gardes nationaux parisiens aient bougé. Ça a été efficace en province, en revanche, la mesure. Enfin, concret, plus concret.
En mai, juste avant, puisque la garde municipale, effectivement, va être dissoute le 26.
Immédiatement, ils étaient impopulaires, eux.
Enfin, on va quand même recréer une garde républicaine au mois de mai, de Paris. Elle est un petit peu autonome, elle n'est pas rattachée à la gendarmerie, elle ne le sera qu'un an plus tard. Mais juste avant de créer la garde républicaine, il y a un texte du gouvernement provisoire qui dissout la plupart des milices armées qui s'appellent Montagnards, Garde Civile. Quelle force représentent-ils? Et ces groupes sont armés et ils sont dissous vers la mi-mai.
Et puis surtout, on craint beaucoup, on essaie de rétablir l'ordre dès le début juin. Et puis les rassemblements sont théoriquement interdits à partir du 7 juin, si je me souviens bien. N'empêche qu'il y avait 5 ou 10 000 personnes tous les soirs qui manifestaient entre, en gros, la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis. Ça n'intervient pas vraiment. On ne voit intervenir que au moment de l'assaut, et on ne sait pas vraiment, on n'en a pas la carte. J'ai constaté, par exemple, qu'à la barrière Saint-Méry, c'est effectivement le 15e bataillon d'un régiment de la garde mobile et qui a fait de grosses pertes, capitaine en tête. Là, je peux dire que celui-là était engagé à ce moment-là, là, à cause des blessés et des morts répertoriés. Sinon, il y a une espèce de flou, parce qu'il faut bien se dire que, en principe, le citoyen doit être armé. Le citoyen censitaire, alors censitaire, c'est celui qui paye déjà une certaine somme d'impôts. Et une mesure, d'ailleurs, qui avait mécontenté la boutique à Paris, c'était l'abaissement du cens. Normalement, nous, quand si on nous baissait les impôts, nous serions tous contents. Eh bien non, parce que ça les faisait descendre, hein, si je puis dire, dans la carrière des honneurs, et ça les excluait du droit d'être garde national. Donc, le citoyen censitaire exerce son droit civique par l'urne et par le maintien de l'ordre dans son quartier. J'avais pris l'image de la gendarmerie parce que je pense aux gendarmes de campagne, débonnaires qui règlent les questions au quotidien, enfin qui savent tout à fait moduler les rapports pour à la fois...
La garde municipale, c'est la gendarmerie.
Oui.
Depuis 1838.
Oui, mais ça c'est le droit. Mais en termes d'usage, moi je trouve que les gardes nationaux correspondraient à l'usage que nous faisons, nous, à la campagne des gendarmes. Le statut des gens m'importe moins que ce qu'ils font au quotidien. Et on attend une très belle thèse que prépare Mathilde Larrère, elle aura bientôt fini dans un an ou deux, sur la garde municipale à Paris de 30 à 48. Oui, les gens sont armés, c'est indéniable. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, on sort davantage d'armes les jours d'émeute, mais sinon on va en prendre chez les armuriers parce que c'était l'époque où on pouvait encore faire in situ et au besoin, en faisant fondre le plomb, les balles et les cartouches. L'industrialisation, avec dans les armureries la neutralisation des armes en ôtant certaines pièces, c'est bien postérieur. Et à partir de 1900, il faut avoir les munitions en même temps que les armes. Tandis que là, on en est encore à une technologie où on peut soi-même bricoler les munitions au besoin. Donc, en période d'insurrection, des femmes prises parce qu'elles apportaient les balles, qu'elles avaient fait fondre les petites cuillères de plomb. Voilà. Merci.